Ici, on est à Mérignac, à l'Auxerre de Bellevue, dans le centre équestre qui se trouve juste à côté des pistes de l'aéroport, qui se trouve sur le chemin de la piste actuelle de départ de certains vols.
L'installation, on a les deux voitures qui forment plus ou moins un angle qui est un petit peu clôturé par l'écran, qui est mis en tension entre les deux voitures. Après, on a cette remorque qui se déplie, qui devient une table des chambres, une table de conversation. Donc le dispositif, il est comme ça. Après, tu l'as vu, des caisses, elles nous servent de tabouret, réparties comme ça autour de la table. Et puis, ces poufs, ces espèces de sacos qui reprennent plus ou moins le logo d'Evento, en tout cas sa couleur, le triangle ou le rectangle là, en l'occurrence, pour s'allonger tranquillement sur et assister tranquillement autour de la table de conversation. Voilà. L'idée, j'aime bien dire ça, c'est développer une agora urbaine en tout lieu, un espace d'échange, de parole, de prise de parole, le concept un petit peu de réévolution urbaine. Donc, ce qui définit un petit peu le projet qu'on a élaboré avec Michelangelo Pistoletto. Et l'idée, c'était de s'arrêter dans des lieux forcément périphériques, forcément lointains, entre guillemets. J'aime bien le terme d'entour de l'agglomération, c'est-à-dire qu'on est à la lisière. C'est d'ailleurs un des mots thématiques d'aujourd'hui. Et l'idée, c'était de questionner cette réévolution urbaine. En quoi l'art peut avoir un rôle, peut jouer un rôle, mais en compagnie aussi de tous les savoir-faire pour activer des transformations sociales responsables.
Moi personnellement, donc, Cédric, de l'association Effort de Conscience, association mérignacaise. Le siège social est à Mérignac et on développe historiquement sur la ville, mais maintenant sur toute l'Aquitaine, des ateliers où chaque individu peut poser une parole artistique. En fait, donc on y va ensemble. Mon but, c'est de permettre de te révéler différemment par rapport à la pratique de l'écriture. Et nous, à côté, on écrit, quoi. On écrit. Alors là, c'est pas conceptualisé, ça sort des tripes, simplement de jouer avec des mots. Je crois qu'on vient représenter l'événementiel Evento. Je vois Bordeaux, ici on est à Mérignac, des idées, t'inquiète qu'on en a en vrac. On peut le faire simplement. Ton prénom, c'est comment ?
Eric,
pas de souci, on fait partie de la même clique. Ce soir, il n'y a pas besoin de rythmique. C'est biologique, ça sort des tripes, ça sort de l'intérieur. C'est ça pour les frères ou pour les sœurs, peu importe l'âge, qu'on reste sage ou qu'on soit tendu. La corde ne sera pas tendue, pendue, on ne finira pas. Qu'on pleura ou qu'on chante, c'est la même. Il n'y a pas d'attitude méchante, juste des rimes alléchantes.
Paul Jorion, bonjour. Merci d'être présent parmi nous. Si vous êtes chercheur en sciences sociales, vous avez fait usage des mathématiques dans de nombreux champs disciplinaires, l'anthropologie, les sciences cognitives, l'économie. Vous êtes un des rares économistes, comme je le disais, à avoir anticipé la crise des subprimes et la situation qui en a résulté.
Le capitalisme, c'est un défaut que présentent certains systèmes économiques. La loi de l'offre et de la demande, ça ne marche pas. Même chose pour le capitalisme. On dit le capitalisme a permis de rendre le monde très très riche. Regardez ce qui s'est passé au 19e siècle, etc. Et quand vous regardez, vous levez le capot, vous dites mais le capitalisme, ça veut simplement dire toujours que l'argent n'est pas à l'endroit où on en a besoin. Que l'argent manque toujours à l'endroit où on a besoin et on doit toujours l'emprunter. Les gens disent oui, mais c'est normal ça. Mais non, c'est pas normal. Il faudrait que l'argent soit là où on en a besoin. Il y a un mouvement de concentration qui fait que ceux qui ont de l'argent, ils vont toujours en avoir davantage jusqu'au moment où le système s'écroule. Alors, en 2008, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça qu'il aurait fallu faire. Il ne fallait pas faire du tout un système idéologique qui nous disait que le capitalisme, c'était une chose dont il était une chose était sûre, c'est que c'était parfait, que c'était immortel, que rien ne pourrait jamais lui arriver. On aurait mieux fait de réfléchir à ses faiblesses, à ses défauts. Et une façon d'aborder le problème, c'était de s'apercevoir d'abord que le capitalisme, ce n'est pas un système parfait et immortel, c'est un défaut effectivement que présentent certains systèmes économiques, c'est que l'argent, les ressources qui doivent servir comme des avances dans la production, dans la consommation, manquent toujours par définition à l'endroit où elles sont nécessaires. Si on voulait reprendre le problème comme Keynes, en disant bon, le capitalisme, il faut quand même le sauver parce que c'est le moins pire des systèmes et le seul moyen qu'on connaît, c'est le plein emploi, cette solution-là, elle a disparu aussi. On dit souvent, oui, la délocalisation, tous les boulots ont disparu en Chine, etc. Et quand on réfléchit, en fait, il y a une toute petite part fraction de ces boulots qui ont disparu, qui se retrouvent en Chine, en Indonésie, au Vietnam, etc., en Thaïlande. Il n'y en a qu'une fraction. Il y a l'informatisation, la robotisation fait que la plus grande partie du travail qui a disparu n'est pas simplement déplacé d'un endroit vers l'autre. Elle a disparu. Si on veut refaire la tâche de Keynes, il faut inventer autre chose.
On a, entre-temps, inventé autre chose pour essayer de continuer à faire en sorte que la consommation tire son épingle du jeu, c'est l'endettement.
Oui, et ça, c'est ça qu'on a fait.
On nous dit qu'on n'est qu'au début de cette zone de perturbation.
Oui. Mais vous savez, en octobre 2008, donc 15 jours à peu près après la chute de Lehman Brothers, tout le monde se rend compte à quel point le système est dégradé. Monsieur Sarkozy fait le discours de Toulon. Il pose la question comme on vient de la poser, c'est-à-dire en termes de salaire qui manque, en termes de crédit, etc. Il dit qu'il faut absolument changer ça, il faut refonder le capitalisme, etc. À la même époque, il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Maxence Granier. Il fait un article sur il regarde l'opinion, il regarde les gens qui parlent de la crise. Il dit il y a quatre attitudes possibles. Il y a une attitude qui consiste à dire le système finalement n'est pas en mauvais état, enfin n'est pas en si mauvais état qu'on ne puisse pas le réparer pour qu'il redevienne exactement comme il était avant. Bon, il appelle ça la posture A, je vais garder le terme. Il y a des gens qui disent le système est très très abîmé, on peut essayer de le réparer dans l'état où il est maintenant, mais on n'arrivera jamais à le remettre exactement en place de la manière dont il était. Bon, il appelle ça posture B. Posture C, c'est qu'il faut qu'on passe à autre chose, mais on va pouvoir le faire par une transition entre le système qui s'effondre et le suivant. On va pouvoir arriver à un autre système par une transition qui ne sera pas une transition catastrophique au sens de René Thom, c'est-à-dire qu'on retrouve pas les pour prendre une image, quand une chenille fait son cocon et sa chrysalide, etc., passe au papillon. On peut retrouver des analogies entre la chenille et le papillon, mais c'est pas facile. On est vraiment passé à autre chose. Bon, on pourrait prendre ça comme l'image pour la posture C. Et puis, posture D, le système s'effondre entièrement et on reconstitue quelque chose qui ressemble absolument rien pas au précédent. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de tous les gouvernements? On a fait uniquement une chose, essayer d'utiliser la posture A. Bon, la seule pour laquelle on n'avait trouvé personne pour dire que ce soit possible, c'est celle-là qu'on a voulu mettre en place. Alors, M. Sarkozy, prenons son discours de Toulon, il est dans une position, je dirais, assez difficile. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Qu'on se tourne, par exemple, vers les économistes. Si on dit qu'est-ce qu'il faut faire, et comme j'expliquais tout à l'heure, ils n'ont pas la moindre idée, parce que leur science économique n'a jamais produit le type de discours qu'il fallait. Donc, ça peut être aussi simplement de l'ignorance. Il y a une part de mauvaise volonté, mais il y a aussi simplement une part d'incompétence, une part d'ignorance. Et aussi, il n'y a pas simplement le fait que la science économique n'a pas été construite comme il aurait fallu faire. Il y a aussi cet autre élément de la complexité qui fait qu'on a un système financier où la moitié de ce qui se passe, on n'a pas la moindre idée de comment on peut la modéliser. On n'a pas la moindre idée de comment ça marche en réalité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut simplement regarder ce que les ordinateurs font un jour et se demander le lendemain, essayer d'analyser le lendemain ce qui s'est réellement passé. Alors, c'est ça la situation à laquelle on est. Il y a eu en 2008 une prise de conscience suffisante. Il n'y a pas eu des décisions qui étaient prises. Peut-être simplement parce que en grande partie, on ne sait pas exactement ce qu'il faudrait faire pour le remplacer. On est dans une telle impasse qu'il est bien possible qu'on glisse insensiblement vers une situation de type D, c'est-à-dire où on ne peut plus sauver le système tel qu'il était. Je veux dire, ça nous montre qu'on est dans une période comme les années 1780 pour la France. Ça montre aussi qu'il n'y a pas de solution toute prête. La plupart des gens... Et alors, vous faisiez allusion aux théories du complot. Qu'est-ce que c'est une théorie du complot? Eh bien, c'est comme quand on vous explique explique pas ce qui se passe, ou quand on vous dit le contraire de ce qu'on a dit le jour précédent, en vous disant aussi si en fait je m'étais trompé, c'était pas le manque d'argent par les salaires qui étaient trop bas, c'était le fait que vous dépensiez trop. À ce moment-là, les gens se disent bon, c'est pas possible qu'il soit aussi bête que ça. Donc il doit le faire délibérément, et par conséquent, il doit avoir des gens autour de lui qui lui disent de le faire, etc. On a une tendance, on veut pas trop pas croire à l'incompétence des gens. Plutôt que de croire qu'ils sont incompétents, on se dit plutôt qu'il a une idée derrière la tête. C'est un aspect très charitable de notre nature humaine. Et quand une explication est compliquée, il est toujours évidemment plus simple de la remplacer par une explication simple. Et une explication en termes de complot, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui sont réunis un jour dans une cave et qui ont décidé de le faire de telle et telle manière. Ça fonctionne depuis toujours comme ça. Les religions primitives vous disent oui, c'est parce qu'il y a le dieu qui a prévu aux eaux. Pourquoi ça se passe comme ça ? Ah, parce que le dieu qui a prévu aux eaux avait décidé de le faire. Bon, pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est ? Eh bien, parce que Dieu l'a créé un jour comme ça. Cette théorie du complot, ce n'est pas uniquement dans les complots. Toutes les religions sont des immenses théories du complot. Et des religions monothéistes, ce sont les religions où il n'y a qu'un seul comploteur qui fait tout seul et qui prend toutes les décisions pour tout le monde. Alors c'est tentant évidemment, mais ça remplace l'explication qu'il faudrait véritablement trouver. La propriété privée, je crois que c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Si on entre dans une période de changements radicaux, il faudra qu'on réfléchisse à ces choses-là aussi. Pas simplement la manière dont nous imaginons que nous avons un contrôle absolu sur le monde autour de nous, mais la manière dont nous vivons avec ce monde, ou parfois c'est ce monde lui-même qui nous impose des choses. Un système de revenu universel qui sera un système qui tiendra debout nous obligerait à revoir considérablement... Enfin, radicalement le rapport que nous avons aux objets et par conséquent à la propriété privée. À mon sens, si on ne reprend pas la question de la propriété privée au départ, on ne va pas pouvoir résoudre cette question-là d'un revenu universel. On ne va pas pouvoir le faire dans le cadre existant, enfin ce qu'il en reste.
Il y a peut-être des questions.
Une des aberrations et non des moindres du capitalisme, c'est qu'il est fondé sur une notion qu'il oublie au passage de définir, c'est la notion de richesse. Est-ce qu'il ne vous semblerait pas aujourd'hui nécessaire de redéfinir, ou plutôt de commencer à définir ce que signifie la richesse ?
Oui. Oui, là vous posez le cadre plus général, donc je ne sais même pas esquisser, parce qu'on est resté dans un cadre justement du monde comme il est, sans poser la question même de savoir si on l'a dégradé, s'il n'est pas limité, si on a notre politique d'espèce, c'est-à-dire une politique de colonisation qui est un petit peu une politique de la terre brûlée, s'il ne faut pas reposer les choses dans ce cadre-là. Alors oui, mais oui, même la notion de richesse, il faut la repenser.
Des multirotors ou tricoptères, pour un tricoptère, quadrocoptère, hexacoptère, octocoptère et deux décacoptères, voilà, pour à chaque fois le nombre de moteurs. La particularité du drone, c'est que l'engin va être piloté en fait par une centrale à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as une couche en plus qui, elle, est l'autopilote, qui va avec donc des points GPS et vous donner en même temps altitude et donc une sorte de haut de pointe, et bien l'engin va faire sa mission. Donc ça, c'est ça la qualité d'un drone. Ces modèles-là sont des drones. Voilà. Maintenant, l'utilisation du drone, on l'utilise vraiment à même pas 2%. C'est-à-dire qu'on lock juste le point GPS, voilà, pour garder, on va dire, garder l'engin dans un cube, voilà, altitude et point GPS, et en fait, on va dire, l'opérateur, lui, se centralise que sur la prise de vue. Donc il va orienter la nacelle, et du coup, avec un petit retour vidéo, il va pouvoir filmer exactement ce qu'il veut. Thibault. Et mon site c'est amkz.fr ou aéronef au pluriel.fr.
On va enchaîner sur cette quatrième partie du protocole. L'échange sur les questions frontières, de lisières, de cosmopolitisme. Jean-Éric Malabre, donc vous êtes représentant de l'ANAFE, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.
La frontière, la notion juridique de frontière, et donc on va le voir de zone d'attente, c'est le critère d'un droit qui est différent. C'est le critère, je dirais même, d'un certain non-droit. Alors, c'est important de savoir ce que c'est qu'une frontière, et il se trouve qu'aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment ce qu'est une frontière. Avant, je l'ai dit, point, ligne, point A au point B, E et nous. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je vais vraiment résumer en 2 minutes, mais vous avez 50 types de frontières. Vous avez les frontières internes de l'Union européenne, où certaines choses sont possibles, certains contrôles sont légaux et d'autres non. Et puis dans l'Union européenne, vous avez l'espace Schengen qui n'est pas exactement la même chose que l'Union européenne, qui est un sous-ensemble. Et vous avez les frontières internes de l'espace Schengen et puis les frontières externes de l'espace Schengen. N'essayez pas de comprendre, même les juristes n'y comprennent rien. Et quelque part, c'est un peu fait pour. Aujourd'hui, la frontière, c'est les gares internationales, c'est la zone de 20 km d'un côté ou de l'autre, d'une gare, d'un port ou d'un aéroport international. Mais ça va aussi bien au-delà. Et je termine là-dessus. La dernière loi en cause, qui est la loi Besson, qui est en vigueur depuis quelques semaines, est venue définir la zone d'attente. La zone d'attente, c'est cet endroit de la frontière où on a le droit de parquer, de détenir des étrangers avec un contrôle très réduit du juge, en attendant de pouvoir les renvoyer ou les expulser. La définition de la zone d'attente, et c'est assez merveilleux, y compris pour les philosophes et les philosophes du droit, dans la loi Besson, donc la définition de cette zone de non-droit ou de droit atténué, eh bien aujourd'hui, elle s'étend à tout endroit du territoire national où manifestement un groupe d'étrangers vient d'arriver sur le territoire. Critère d'étrangers en avoir l'air. En gros, la frontière, et je termine là-dessus, c'est plus un lieu, c'est plus une séparation. La frontière, aujourd'hui, c'est l'autre. La frontière, c'est celui qui a l'air étranger et dont on présume qu'il l'est.
Donc Bruce Bégou est philosophe et écrivain, il est maître de conférence à l'université de Bordeaux 3.
Je reviendrai sur un paradoxe. Donc, d'un côté, effectivement, on constate de manière plus ou moins fiable, mais quand même, on a des grandes tendances à une hypermobilité, qu'elle soit sociale, mondiale, financière, et en même temps, une sorte, au contraire, d'hyper-immobilisme, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas bouger, des gens qui sont refoulés aux frontières, etc. Et donc la frontière est un lieu de tension, parce que bien évidemment, il y a une tension entre le dedans et le dehors, entre eux et nous, effectivement.
Mathieu Larnaudy, tu es écrivain.
Je pensais à ce que vient de démontrer Bruce, et qui en fait tendrait à nous laisser penser que tu as parlé de paradoxe, et en fait c'est plutôt une dialectique. À la mesure de l'illimité qui s'est concrétisé par le biais des technologies, par le biais des flux notamment dont parlait Bruce, il y a eu un endiguement de cette illimitation d'autant plus précis qui s'est matérialisé dans les frontières, dans les murs dont tu parlais. Et ce qui pose évidemment question, c'est que c'est depuis finalement la chute de ce mur symbolique par excellence qu'était le mur de Berlin, qu'en fait, et donc une illimitation, enfin plutôt une espèce d'ordre dorénavant unique et fluctuant du monde, fluctuant dans le sens parcouru par un ensemble de flux, c'est depuis cette chute-là que les murs se sont multipliés, en fait. Il n'y a jamais eu autant de murs, il n'y a jamais eu autant de matérialisation de frontières comme ça, d'endiguement de l'illimité, que depuis qu'il devrait y avoir cette illimitation-là, à la fois économique et politique, depuis que le mur de Berlin est tombé.
Il y a 2 ans, lorsqu'on s'est rencontrés, tu avais évoqué une histoire vraie. C'était tout simplement une cargaison chinoise sombrer dans l'océan de petits canards jaunes.
Effectivement, cette histoire, elle était assez exemplaire et elle est toute simple. C'était donc un cargo qui était parti de Hong Kong, si mes souvenirs sont bons, qui a été pris dans une tempête au large d'Hawaï. Et donc, on versait dans la mer un certain nombre de containers qui se sont ouverts et qui donc ont laissé échapper, dans mon souvenir, c'était 60 000, je crois, petits canards en plastique, comme ça, qui étaient conditionnés pour voguer vers les États-Unis et finir leur parcours dans des baignoires américaines, dans les mains d'enfants réjouis. Et ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'à partir de ce point zéro, finalement, puisqu'ils sont tous tombés à la mer au même endroit, on a trouvé des canards sur des plages, alors évidemment beaucoup en Indonésie, beaucoup sur les côtes américaines, mais on en a même trouvé en Irlande, ce qui induit que, en fait, ce petit canard qu'on a trouvé en Irlande est quand même passé par l'Arctique tout seul, à dériver, etc. Et donc c'est évidemment très intéressant et on pourrait effectivement y voir une espèce de métaphore de l'époque, qu'à partir d'un point zéro, en fonction de critères finalement assez aléatoires, mais probablement très recoupable par des phénomènes physiques, par des phénomènes scientifiquement examinables. Et d'ailleurs, il y a un scientifique américain dont j'ai oublié le nom qui voue sa vie en fait à cette cargaison de canards et qui va donc à l'endroit où ils ont été recueillis pour essayer de s'expliquer comment ils ont pu aboutir là par l'effet du vent, par l'effet des courants marins. Et évidemment, c'est une métaphore, à mon avis, très intéressante de notre monde de flux.
Je présente Jean-Baptiste Naudy, l'un des membres éminents de Société Réaliste. Alors, Société Réaliste, c'est une coopérative parisienne de production artistique qui a été créée en 2004.
À propos de ce truc de Régis Debray, moi, ce qui m'étonne, c'est que effectivement, c'est de revenir aux frontières pour enlever les murs, etc. C'est faire preuve d'une grande méconnaissance, puisque la plupart des murs qui sont construits aujourd'hui ne sont pas des murs de frontières nationales. Ce sont des murs qui sont construits à l'intérieur des États. Je pense, par exemple, il y a des murs qui sont très célèbres, qui s'appellent j'aime beaucoup l'expression, les interfaces ethniques, qui sont ceux de Belfast, et qui, là, pour le coup, c'est pas des rues, même pas des quartiers, c'est des rues, vraiment. Qui sont bloqués, ou même à Jérusalem, là la question nationale se pose, les rues que vous ne pouvez pas prendre. Bon, un jour vous pouvez la prendre, et puis le lendemain vous ne pouvez pas la prendre. Donc les murs, ils se caractérisent aussi par effectivement leur caractère extrêmement temporaire. Et ensuite, par rapport à la question de la zone franche et aux cargaisons de Hong Kong, etc., déjà, entre le moment où le canard est fabriqué dans l'usine, et le moment où il part de Hong Kong, il est resté sur un territoire qui s'appelle, dans la nomenclature en français, c'est Chine, République populaire de Chine. Mais en fait, il est passé par beaucoup d'autres territoires et beaucoup d'autres types de frontières. Par exemple, vous avez un mur qui sépare aujourd'hui Hong Kong de Shenzhen. Alors, Shenzhen, c'est la ville qui a été construite en face de Hong Kong pour répliquer au colonialisme britannique par les Chinois, et qui, au moment où Hong Kong a été récupéré, je me souviens, en 97, de la cérémonie, le drapeau, alors il y avait les Anglais qui étaient là, qui ont baissé leur drapeau, les Chinois qui étaient là, qui ont monté leur drapeau, donc ça c'était la représentation traditionnelle de qu'est-ce que c'est qu'un territoire. Alors là c'est un territoire colonial qui repasse à sa puissance territoriale traditionnelle. Hong Kong est resté une colonie chinoise de la Chine, ce qui fabrique là aussi, alors des paradoxes, ou en tout cas des dialectiques qui sont intéressantes pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une frontière, parce que à propos de cette idée selon laquelle les frontières seraient en train de disparaître, etc., peut-être quelques frontières nationales, à l'issue de quelques traités économiques internationaux, se sont amoindries en termes de taxation des flux de capitaux, de marchandises et de personnes. Mais les frontières externes, alors là pour le coup, les frontières externes des blocs continentaux ou impériaux, celles-là, elles se renforcent. Aujourd'hui, à Varsovie, il y a une organisation européenne qui est Frontex, qui est basée là-bas. Frontex, c'est l'organisation de coordination de la répression de l'immigration illégale aux frontières de l'Union. Ils ont 130 navires de combat tout autour de l'Europe, qui arpentent l'Europe pour shooter les radeaux de la Méduse qui essayent de traverser. Voilà. Et puis, à propos de qu'est-ce que c'est que frontières et Frontex, ça me fait penser à l'île de Lampedusa. Et alors, sur l'île de Lampedusa, il y a quelque chose qui se trouve quand même à 54 km de la Tunisie, donc c'est quand même pas très loin. Il y a une montagne d'éminence. Au sommet de la montagne, évidemment, il y a un immense crucifix qui est tourné vers l'Afrique. Alors ici, on n'entre pas. Ici on entre, mais quand on comprend ce que ça veut dire, ce que veut dire ce signe.